C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Évidemment, je pense que hier, quand cette nouvelle-là est tombée, comme disait Bénédicte, tous les parents se sentent interpellés. Une petite fille qui perd la vie en jouant dans une structure de neige. Elle construisait un fort, d'après ce qu'on comprend. Heureusement, la petite fille qui était avec elle, âgée de 7 ans, a survécu. Elle a été blessée, mais on ne sait pas non plus l'ampleur des blessures en question. Et je pense qu'on a raison de se poser un certain nombre de questions sur ces événements violents qui ont marqué la fin de semaine. Pour deux ou trois raisons. D'abord, c'est comme toutes les fins de semaine. Et en plus, on a affaire à des coups de feu tirés dans des quartiers résidentiels de l'ouest de l'île, à Mont-Royal, des maisons dans des rues très tranquilles qui sont visées. Puis les tireurs qui n'hésitent pas, parfois c'est le soir, tard, parfois c'est en plein après-midi, à ouvrir le feu sur des maisons. Puis aussi sur des individus. Et il n'y a pas de code d'éthique, il n'y a pas de déontologie. Et on n'est qu'à la fin du mois de mars. Ça laisse entrevoir, disons, un printemps qui va peut-être brasser un peu. Puis n'oublions pas aussi Leonardo Rizzuto, qui a été victime d'une tentative de meurtre. Est-ce qu'il y aura réponse du crime organisé, de la mafia italienne? Ça reste à voir, mais disons que des événements violents à répétition, ça en fait beaucoup. Puis, petite parenthèse sur ce qui s'est passé à Toronto en fin de semaine dans le métro, alors qu'il y a un adolescent qui a été poignardé. Ça s'est passé vers 9 heures samedi soir. Le jeune a 16 ans. Il était assis sur un banc dans une station de métro de Toronto. Et il y a quelqu'un qui s'est avancé vers lui, qui l'a poignardé à plusieurs reprises. Le jeune est décédé. Et ce que les policiers ont comme élément jusqu'ici, c'est que l'agresseur et la victime ne se connaissent pas. On ne sait pas trop pourquoi ça s'est passé, puis pourquoi le jeune a été comme ça piqué. Est-ce que c'est au hasard? Ça demeure mystérieux. Mais ça s'ajoute au nombre d'incidents dans le métro de Toronto. Puis sans parler, quand jette un coup d'œil à Montréal, on ne dit pas que le métro n'est pas sécuritaire, mais le gars qui s'est fait tabasser l'autre jour, puis beaucoup d'auditeurs et d'auditrices témoignent, disons, de moments un peu stressants pour la clientèle. Beaucoup d'itinérants sur certaines rames, dans certaines stations de métro. Maintenant, cette semaine, le ministre de la Santé, Christian Dubé, va déposer son fameux projet de loi qui va créer l'Agence de la santé au Québec. Disons que ce matin, la presse a pas mal les grandes lignes. Et ce qu'on peut dire d'abord, c'est que l'Agence de santé va devenir l'employeur unique. Actuellement, là, vous avez les 34 employeurs locaux, là, les CIS puis les CIUS. Là, c'est l'agence qui va être le seul et unique employeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ancienneté des employés va se promener dans le réseau de la santé. Vous allez vouloir, c'est pas tout de suite, là, changer d'hôpital, par exemple, mais vous n'allez pas perdre votre ancienneté parce que vous changez d'employeur, il y en aura un seul. L'ancienneté ne sera pas le seul critère dans l'octroi des postes ou de tous les postes. On voudrait garder un certain nombre de postes peut-être plus pointus ou au-delà de l'ancienneté, il faut garder aussi les compétences. Je précise d'entrée de jeu que ce qu'on nous dit ce matin, c'est que ces modalités vont entrer en vigueur après la négociation actuelle. Donc, ça ne touche pas. C'est sûr que ça va se jaser, mais le projet de loi va s'appliquer seulement après pour les prochaines négociations. Ça veut dire aussi l'embauche d'un boss par hôpital, comme on le fait avec les centres de soins de longue durée. L'autre élément, les médecins spécialistes devront travailler plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire plus d'heures en urgence, être plus présent à l'hôpital et aussi accepter d'aller travailler dans des hôpitaux à découvert. Et ça, c'est important. Et ce que Québec laisse sous-entendre, c'est que c'est à peu près 20% des médecins spécialistes qui posent problème parce qu'ils sont plus à l'extérieur dans des cliniques, mais qui génèrent 80% des problèmes. Alors, c'est quand même costaud, là, puis là, j'ai pas donné tous les détails, mais ce que je veux vous dire, c'est que, attendez de voir les réactions syndicales aujourd'hui, là. Parce que ça veut dire qu'il y a 4 tables de négo qui vont suivre. Ça veut dire qu'il y a des syndicats qui vont perdre des membres. Ça veut dire aussi des pertes d'argent. Il y a beaucoup d'argent de cotisation syndicale au bâton. Puis il y a également, je vous dirais, toute la notion des dogmes syndicaux des dernières années où l'ancienneté était le seul critère, pratiquement. Là, Québec veut introduire cette notion de dire, pardon, dans 10, 15 % des cas, il faut être capable d'avoir peut-être d'autres critères quand vient le moment d'accorder un emploi. Et ça arrive aussi alors que le Collège des médecins présente un document qui conclut qu'il y a une forme d'inéquité au Québec dans les soins spécialisés, que les listes d'attente pour les chirurgies ou des soins sont tellement variables d'une région à l'autre et que c'est en raison d'une mauvaise gestion. Et que le collège dit que la question du maintien de certains établissements devient problématique et revêt un caractère politique. Est-ce que dans certains coins, on fait croire aux gens qu'on est capable de les soigner alors que c'est une illusion parce qu'on n'a pas les ressources? Est-ce qu'on devrait concentrer, avoir une force de frappe en santé plus efficace dans un nombre plus restreint d'établissements? Peut-être, mais en tout cas, le Collège des médecins pose cette question-là aussi. Et puis, Radio-Canada qui nous dit qu'environ 40 % des centres de soins de longue durée du Québec qui sont en mauvais état, 171 centres d'hébergement sont considérés comme en mauvais ou très mauvais état. C'était 101 en 2020. Je ne sais pas si M. Legault va remettre en question les chiffres quand on lui parle des écoles chambranlantes du Québec négligées, vétustes. Il n'est pas sûr, il n'est pas certain. Est-ce que c'est toute l'école? Est-ce que c'est juste une classe? Et l'autre réalité, c'est que quand on annonce dans les budgets puis dans les semaines qui suivent des investissements, ben on voit que ça prend une éternité avant que ça se mette en branle. Et c'est vrai pour le logement, mais c'est vrai aussi pour la rénovation et la construction. Et puis le Journal de Montréal nous dit ce matin que on a des problèmes avec la paye des employés du gouvernement. Ce sont les syndicats qui sonnent l'alarme. Alors, vous avez des heures non payées, des gens qui devaient avoir une augmentation de salaire qui l'ont pas eu, les relevés d'emploi, on comprend pas grand-chose, et dans certains cas, des montants payés en trop. Ça rappelle Phoenix. Phoenix, là, le système de paye fédéral, est même pas encore réglé. Et je vous rappelle que pour ce qui est de la Société d'assurance automobile du Québec, on s'est inspiré du même fournisseur que Phoenix. Et qui est responsable, en bout de ligne, de ces bugs concernant la paye des employés? Ben, ça remonte au ministre Éric Kerr de la cybersécurité et du numérique, le MCN. Alors, ça va pas bien pour M. Kerr, parce qu'il va dire que c'est pas dans sa cour, ça non plus. Mais on donne des exemples d'employés qui, normalement, auraient dû être payés 37,5 heures, qui ont été payés 35 heures. Des montants payés en trop, des montants payés en moins, des rétroactions salariales qui n'ont pas été versées. Alors, est-ce que c'est la gestion? Est-ce que c'est le système? Ça reste à voir, mais disons qu'il y a des cas comme ça assez nombreux. Notre collègue Patrick Lagacé a écrit deux chroniques concernant le combat d'Isabelle. Le deuxième volet est publié ce matin. Et c'est une mère, donc, qui découvre que son conjoint, le père des enfants, a abusé de ses deux enfants. C'est le choc, on comprend. L'homme en question a plaidé coupable. Il a été condamné à la prison. Et tout ça se passe d'abord en 2019. Et quand elle amorce les procédures de divorce, elle réalise, là, puis il y a un certain nombre d'enjeux, notamment si elle décède, puis bon, c'est quoi le lien entre le père et les enfants? Et elle dit, ben, je vais aller chercher, je veux lui enlever ses droits, ce qu'on appelle la déchéance parentale. Et là, c'est comme si on voulait la décourager. Partout où elle pose la question, on lui explique que c'est elle qui doit amorcer la démarche juridique, qu'elle doit faire la démonstration que le père est donc inapte, qu'il ne peut pas se retrouver avec la même autorité qu'un père dans un contexte normal, puis que dans le fond aussi, elle doit payer de sa poche. Puis il y a une avocate qui sera avec nous, ainsi que Patrick tantôt, pour parler de ça. Et le juge a été tranchant là dans sa décision en disant que c'est pas vrai que t'es un bon père quand t'agresses tes enfants, puis que y a rien qui nous dit que t'as changé depuis. Puis là, vous imaginez la culpabilité de la mère qui se dit, il a abusé pendant que j'étais pas là, pendant que je sortais avec des amis, pendant que j'allais au gym, pendant que j'avais mes activités. Puis finalement, elle l'a découvert parce qu'un des deux enfants a posé des questions, disons, qui étaient un peu bizarres pour un enfant de son âge. Et ce combat qu'elle mène, c'est pour faire en sorte qu'il y ait des amendements à la loi et que c'est pas vrai qu'il faut faire cette preuve-là devant le tribunal. La bataille devant la justice a été plus longue que le temps passé en prison par le gars. Et je vais vous apporter un éclairage différent sur un point. J'ai vu des cas d'enfants qui avaient été abusés par le parent, par l'adulte, par le père. Puis j'ai vu ces enfants-là avoir des rencontres avec le père abuseur. Des rencontres supervisées. Puis sérieusement, là, je sursautais à chaque fois. Je me disais, mais ça n'a pas de bon sens. Pourquoi est-ce qu'on met en présence l'agresseur et la victime? Est-ce que c'est dans l'intérêt de l'enfant? Il faut toujours se ramener à ça, là. Les décisions doivent se prendre en regardant ce qui est bon pour l'enfant. Puis est-ce que de le mettre en présence de son agresseur, c'est bon pour l'enfant? Eh bien, il y a des experts qui m'ont dit que oui. Moi, ça m'a jeté à terre, là, pour être bien franc avec vous, là. Et un des intervenants m'avait dit, pour cet enfant-là, le père n'est pas qu'un agresseur. Il a gardé de bons souvenirs. La plupart de ces pères abuseurs-là sont les mêmes qui vont jouer avec, qui vont les amener, je sais pas, au cinéma. Oui, il y a le volet sordide dégueulasse, mais on ne souhaite pas cette brisure parce que l'enfant va se sentir davantage coupable. J'ai de la misère à croire ça, mais je suis pas un psy, puis je suis pas un expert. Fait que j'entends ça. Puis je comprends la mère qui dit dans le cas de ses deux enfants, c'est pas vrai que faut qu'on le consulte avant de prendre une décision. Puis si jamais je meurs, c'est pas vrai qu'il va retrouver l'autorité auprès d'enfants qu'il a abusés. Alors, Patrick va être avec nous et l'avocate aussi tantôt. Le dossier Airbnb. Ben d'abord, concernant l'incendie dans le Vieux-Montréal, il y a 5 morts qui ont été retrouvés et 2 autres personnes qui manquent à l'appel. Donc, on pourrait se retrouver, puis il faut jamais perdre ça de vue, là, avec 7 décès dans un incendie à Montréal. On ne sait rien de l'état des lieux, de la présence fonctionnelle d'équipements de sécurité ou de détection. On sait que l'avocat du propriétaire de l'immeuble nous dit qu'on avait installé un système. Est-ce qu'il était fonctionnel ou pas? Point d'interrogation. Et la ministre Caroline Proulx a fait plier les genoux à Airbnb. Et il faut le dire, puis il faut le souligner, c'est une intervention efficace de la ministre du Tourisme qui fait en sorte maintenant que si vous voulez afficher votre logement sur la plateforme Airbnb, ben la plateforme va demander d'avoir votre numéro inscrit. Et ça, c'est important, là, que ce soit donc seulement les logements qui remplissent les règles de la loi qui soient disponibles pour la location. Puis ça veut dire que tu ne peux pas obtenir ton numéro si ton logement est dans une zone où cette location à court terme est terminée ou interdite, tout simplement. Alors, faut souligner le travail de la ministre là-dessus, là, à servir de bord vite, puis disons que ça a été efficace. Ça, c'est une chose. L'autre chose, moi, ça concerne les inspections. Depuis quelques jours, là, vous avez vu la série de reportages, la presse, le Journal de Montréal, puis là, on nous explique des taudis, des cabanes, des nids à feu, des chambres pas de fenêtres. Comment peux-tu louer une chambre où il n'y a pas de fenêtre ou une porte? Je veux dire, ça n'a pas de bon sens. Puis là, Mme Plante nous a dit vendredi, ben vous savez, ça nous prend des plaintes. Là, tu te dis, mais voyons donc, on peut pas faire des inspections, surtout quand on voit ces logements-là affichés. Et est-ce qu'on va harmoniser entre Québec et Montréal, par exemple, le travail? Je veux bien pincer ceux qui ont pas leur fameux numéro pour le certificat d'inscription, mais il me semble qu'il y a moyen de serrer à vis sur des propriétaires ou des locataires qui sous-louent des nids à feu puis des endroits qui n'ont pas de bon sens. Alors, on va y revenir un peu plus tard dans l'émission ce matin. Aussi, je fais le tour vite de quelques nouvelles. Dans la presse, on nous parle des pertes enregistrées par les restaurateurs pour les gens qui font une réservation puis qui se pointent pas, les no-shows. Et il y a un sondage qui a été fait par l'Association de la restauration du Québec. 65% des restaurateurs disent que le nombre de tables laissées vides par des clients leur pose un problème et que c'est en augmentation. C'est en augmentation parce qu'eux commandent la bouffe. Puis là, c'est le classique, des groupes qui se pointent pas puis qui appellent pas, des groupes qui arrivent en retard, des groupes qui devaient être 5 qui, ou 6 puis qui sont 12 puis qui chialent, puis des groupes de 12 où ils sont finalement que 4. Et est-ce qu'on peut imposer à des clients un montant d'argent, une pénalité? Il semble que la loi actuelle ne le permet pas, mais ce que vous allez découvrir de plus en plus, c'est qu'on va vous demander une carte de crédit au moment de la réservation. Ça commence à se faire à Montréal et je pense que des restaurateurs qui sont à cheval un peu sur la loi qui le disent, cette réservation-là, il y a peut-être un montant d'argent qui vous sera facturé. J'ai vu ça ailleurs, là, mais ça commence tranquillement à s'implanter. Aussi, ce matin, un petit coup d'œil sur la scène internationale pour regarder d'abord le chemin Roxham là, qui est fermé depuis le week-end. Et disons qu'il y a des dizaines de demandeurs d'asile qui pensaient arriver à temps, mais c'est pas le cas, puis ils se sont fait virer de bord. Et là, on va voir comment va s'articuler la gestion des demandes de ces migrants qui transitent par les États-Unis, mais qui arrivent, on sait, de plusieurs pays à travers le monde. En France, si vous suivez ça, c'est la révolte sur la réforme des retraites. Des manifestations, il y en a eu à la tonne. La semaine dernière, c'était des policiers blessés, des citoyens également interpellés, blessés, et ça brasse. Et il y a des scènes qui sont hallucinantes quand vous voyez les feux allumés dans des amoncellements de sacs d'ordures. Et les Français demeurent, disons, à prendre un verre puis à bouffer sur les terrasses. Quelque chose de spécial. Et puis ça continue aujourd'hui. Demain, on prévoit la journée de mobilisation peut-être la plus importante. Là, les estimés varient. Le gouvernement parlait de la dernière fois de plus d'un million de Français dans les rues. Les syndicats parlent de 3 millions avec des perturbations dans les services publics. Puis en parlant de manif également, il y a des manifestations monstres en Israël pour bloquer la réforme de la justice pilotée par le premier ministre Netanyahou. Il a viré son ministre de la Défense en fin de semaine. Puis si je vais à résumer cette réforme qui est soutenue par les partis d'extrême droite, ça vise plusieurs aspects de la société, mais notamment la Cour suprême. Et c'est tout le processus de nomination et la possibilité pour le Parlement de ne pas appliquer une décision de la Cour suprême par une majorité simple. On pourrait nous rappeler peut-être la clause nonobstant au Québec, la clause dérogatoire. Pourquoi? Parce que la Cour suprême, par exemple, a dit à des Juifs orthodoxes, c'est pas vrai que vous allez vous priver de votre service militaire parce que vous vous inscrivez dans une école religieuse. Alors, et comme le gouvernement est un gouvernement de coalition qui tient grâce à ses petits partis d'extrême droite, ben il y a une pression qui est faite sur le premier ministre, qui lui-même a été, impliqué dans un paquet de scandales de corruption. Il a été réélu quand même. C'est comme si on voulait enlever des pouvoirs aux tribunaux. Et ça a des effets sur les universités, sur l'armée. Alors, une réforme qui est largement contestée et qui se traduit par des manifs très violentes dans les rues.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcan.
Imaginez, vous découvrez que vos enfants ont été abusés sexuellement. Déjà, c'est un choc. Mais que l'abuseur, c'est votre conjoint et que c'est le père des enfants. C'est ce que raconte Patrick Lagacé dans deux chroniques. La première qui a été publiée dimanche et puis l'autre qui est publiée ce matin. Et qui nous amène, je vous dirais, vers un joli débat sur l'autorité parentale. Patrick, bonjour.
T'es Paul.
Peut-être raconter aux auditeurs, en gros, là, les faits concernant ce que cette femme a vécu, ben, ses enfants.
Cette femme-là donnait le bain, c'était en 2019, 3 enfants, donc un poupon qui est né pas longtemps avant, dans ses bras. La fille dans la douche, le garçon dans le bain. Et la mère dit, les enfants, n'oubliez pas de laver les parties intimes. Et il y a un des enfants qui dit quelque chose de troublant, genre, comme on fait avec papa. Fait que là, la mère comprend pas trop. et parlant avec les enfants, réalise que il y a quelque chose qui se passe de pas clean avec le père. Pose des questions et les enfants verbalisent et font des gestes qui sont pas des gestes que des enfants, tu sais, de moins de 10 ans devraient connaître, là. Mm-hmm. Que des enfants, les enfants devraient même pas savoir c'est quoi un pénis qui grossit, qui durcit et ce qui en sort, par exemple. Désolé parce qu'il est tôt, mais c'était graphique comme ça. Et là, posant des questions, elle a vu que ça n'avait pas de bon sens, parle au conjoint, l'appelle au travail. Ses explications sont un petit peu suspectes. Elle décide qu'elle s'en va chez sa sœur. Et à partir de là, c'est la spirale des accusations. Mais comme tu disais, est-ce qu'il peut rester le père? Est-ce qu'il peut avoir l'autorité du père? C'est le long combat de cette femme-là.
Mais ce qu'on comprend, le gars est confronté. Et ouais. Ultimement, va plaider coupable quand il sera accusé. Là.
Il n'y a pas eu de procès. Il a plaidé coupable. Ses explications, d'abord, quand la mère s'en va chez sa sœur avec les enfants ce soir-là, revient... Et dépose des enfants, retourne à la maison où le conjoint est rendu, pose quelques questions et dit ben écoute, ouais, c'est vrai que hier s'est passé quelque chose. Fait que tu sais, t'as souvent parlé, t'as souvent plongé dans ces dynamiques d'agression sexuelle intrafamiliale, puis t'as souvent dénoncé le fait que des fois, il y a des mères qui voyaient ça puis qui disaient rien pour plein de raisons. Mm-hmm. Elles. Dans le portique, ce jour-là, elle dit « C'est fini, je demande un divorce, bye. » Signalement à DPJ, la police rentre dans l'équation, la police interroge les enfants et là, on voit que tout ça est vrai.
Le gars s'en va en prison.
Ouais.
Et elle réalise que légalement, il conserve un droit sur ses enfants.
Ouais.
Et elle veut pas que ce droit-là soit gardé. Puis là, on parle de déchéance parentale, ouais. Mais c'est pas simple.
Non, c'est pas simple. Elle, ce qui lui met la puce à l'oreille, c'est qu'à un moment donné, elle réalise, dans les procès, parce que parallèlement, il y a des procédures de divorce. Et lui s'oppose pas à ses demandes, mais elle réalise à un moment donné, elle dit, OK, disons que je meurs. Qu'est-ce qui arrive? Et on lui explique que, écoute, il y a une petite chance que le père puisse demander... Et peut-être obtenir, tout ça est théorique, mais même cette possibilité minuscule théorique, elle veut rien savoir, elle commence à se renseigner sur le principe de déchéance de l'autorité parentale. Et là, partout où elle se vire, on dit, oh, vous savez, c'est compliqué. Son avocat dit, oh, je veux pas s'embarquer là-dedans, connaît pas trop le principe. Fait qu'elle décide de faire des appels, trouve pas d'avocat ou d'avocate qui veulent plonger là-dedans jusqu'à ce qu'elle tombe sur une avocate qui, elle, va dire, ah oui, ça a pas de bon sens, cette histoire-là, je vais vous représenter.
Tu restes avec nous, on va lui parler. C'est Maître Marie-Laurence Brunet qui est en ligne ce matin avec nous. Maître Brunet, bonjour.
Bonjour, M. Arcand. Bonjour, M. Lagacé.
D'abord, j'aimerais juste comprendre l'état du droit pour ce qui est de la déchéance de l'autorité parentale. Qu'est-ce que ça prend puis qui doit initier une telle démarche?
Ben, premièrement, la déchéance de l'autorité parentale, c'est la peine capitale. Là. C'est un jugement de valeur à l'égard d'un parent. On lui dit qu'il est inapte à exercer ses fonctions parentales. Puis pour l'obtenir, il n'y a rien d'automatique. Donc, même quand il y a un crime, comme dans ce cas-ci, qui est aussi odieux, qui est commis à l'encontre d'un enfant, malheureusement, il n'y aura pas de présomption en faveur de cette déchéance-là, donc l'impossibilité pour un parent d'exercer son rôle parental. Puis là, l'autorité parentale, là, ça faisait beaucoup de choses très concrètes pour un parent. C'est le droit d'un parent de décider, ils vont à l'école privée, à l'école publique. Ils vont-tu au service de garde où ils ont une gardienne? Est-ce qu'ils vont avoir des cours de karaté? Ils n'ont pas de cours de karaté. Est-ce, bon, l'éducation religieuse, etc. L'autorité parentale, c'est l'autorité, le mot le dit, c'est l'autorité sur les enfants. Puis la seule façon de perdre ce droit-là, ça prend deux critères. De un motif grave. Évidemment, quand on a peut-être une accusation ou un monsieur qui est trouvé coupable ou une madame, peu importe, là, qui est trouvé coupable d'un crime commis à l'égard d'un enfant, on rencontre certainement le motif grave. Par contre, là où ça accroche, c'est le deuxième critère, c'est au niveau de l'intérêt de l'enfant. Puis l'intérêt de l'enfant, ça se prouve par la balance des probabilités, donc 50% plus 1, et ce fardeau-là repose sur les épaules du demandeur. Dans ce cas-ci, ça a été la mère. C'est à elle d'entreprendre la démarche, c'est à elle d'expliquer au tribunal pourquoi c'est dans l'intérêt de l'enfant, que ce père-là, ce monsieur-là, n'ait plus aucun droit de regard sur ses enfants. Puis ça, c'est le droit de regard, c'est une chose. Mais deuxième chose, c'est le droit à l'information.
Mais ce que je veux comprendre, là, je comprends très bien que la mère puisse demander la disparition des droits pour le père. Mais est-ce que la DPJ peut le faire? Est-ce qu'il y a un autre organisme qui peut dire « je vais présenter cette requête » et aussi établir pourquoi je pense qu'il faut lui enlever son autorité parentale?
Donc, effectivement, ce qui est particulier, c'est que madame, dans ce dossier-ci, m'avait indiqué dès le départ là, que c'est elle qui avait dû faire la demande à la DPJ et que cette demande-là ne venait pas des intervenants qui l'aidaient dans ce processus-là. C'est elle qui avait fait des recherches pour s'informer sur le retrait de ce qu'on appelle de l'exercice des attributs de l'autorité parentale. En français, ce que ça veut dire, c'est qu'on a suspendu devant la Cour du Québec la possibilité de monsieur d'exercer son rôle parental. Par contre, c'est pas l'équivalent d'une déchéance qui est, comme j'ai dit tantôt, la peine capitale. Là, on retire, on coupe le cordon de tout droit de monsieur à l'égard des enfants. Ça, ça prend un jugement de la Cour supérieure. Donc, un parent qui vit une situation si difficile comme ce cas-ci a un peu un parcours du combattant. De un, on a la chambre criminelle. Heureusement, dans ce cas-ci, ça a quand même bien été. Ensuite de ça, on a la chambre de la jeunesse où on va déterminer que la sécurité puis la santé des enfants est compromis, puis toutes les mesures qui viennent avec, donc le temps parental, le retrait de l'exercice d'attributs de l'autorité parentale, comme je l'expliquais. Mais tout ce qui est question de finances, mais aussi des questions de déchéance, donc de couper définitivement ce lien-là, il faut se tourner vers la Cour supérieure. Donc, c'est une autre instance. Puis malheureusement, ce sont trois instances qui ne se parlent pas nécessairement entre elles.
Quel est l'intérêt de l'enfant à avoir des liens, une forme de contact avec le père abuseur?
Ben, moi, ce que je vais vous soumettre, c'est qu'il n'y en a pas, mais ça, c'est
ce que
question,
je pense moi aussi, mais il y en a qui pensent le contraire.
Mais j'ai envie de vous dire que ça a été difficile, M. Arcand. Vous ne savez pas comment c'était difficile d'obtenir cet aveu-là de la part des intervenants de la DPJ, de la part même des professionnels qui ont assisté les enfants. On me dit ça du bout des lèvres, que la déchéance, mon Dieu, c'est vrai que ça va couper définitivement les liens entre un parent et un enfant. Moi, j'ai pas de problème à le dire et à le plaider devant le juge, mais mon Dieu, que j'ai de la misère d'avoir des intervenants qui vont l'affirmer haut et fort dès le départ puis qui vont nous suivre. Ce juge-là a été extraordinaire. Il a mis les mots où il fallait, puis il l'a dit, mais ça a été, comme je le disais, un parcours du combattant pour cette madame-là, malheureusement. Puis il me semble que ça devrait être évident que quand on a un crime aussi odieux que de l'inceste, des agressions sexuelles, de la violence commise à l'égard des enfants, répétée même sur un conjoint, bien, il me semble que le fardeau devrait minimalement pas être sur les épaules du parent non-abuseur, puis peut-être même qu'on devrait aller plus loin jusqu'à dire qu'il y a une forme d'automatisme dans certains cas.
En tout cas, c'est pas aux parents à payer les honoraires d'avocats puis les frais de cour et tout ça pour faire en sorte que le parent abuseur n'ait plus l'autorité sur les enfants victimes, là.
Absolument, puis ça, c'est devant chacune des instances. Fait que dans ce cas-ci, madame n'était pas représentée au niveau criminel, au niveau DPJ non plus, mais elle aurait pu avoir à encourir des frais pour chacune de ces instances-là, peut-être pas au criminel, mais à tout le moins en DPJ, puis après ça, en chambre de la famille. Et ça, c'est sans compter les délais. Ça y a pris à peu près 2 ans et demi à madame pour se sortir de tous ces événements-là.
Et toi, Patrick, tu disais que le gars fait combien de temps en prison? 8 mois, je pense?
9 mois.
9 mois.
Et pendant du début des procédures de déchéance parentale à la fin, il y a eu le temps d'entrer en prison puis de sortir, puis c'était pas fini.
Mais je vous ai posé... Oui, allez-y.
Ben, ce que je voulais dire, c'est que monsieur, ce qui, ça peut choquer, là, mais ce que monsieur, c'est pas quand même pas anodin que quelqu'un va s'opposer, là, à une demande de déchéance d'autorité parentale, là. Malheureusement, j'ai eu d'autres cas dans le passé où ça s'est produit. Puis c'est la défense de réhabilitation qui revient beaucoup. Donc, je suis une meilleure personne. Justement, vous voyez, je suis sortie de prison. Il y avait quand même plusieurs rapports. Il y avait, je pense, à peu près 8 professionnels qui sont venus affirmer que monsieur était quand même rétabli. Mais le juge a été virulent, a été clair, dit, en matière d'agression sexuelle, de santé, de sécurité des enfants, c'est tolérance zéro. Puis, malgré ça, monsieur maintenait son opposition. L'autre point pour lequel il s'opposait, il se dit, ben là, j'aurais plus de nouvelles. Parce que ça, c'était un peu une absurdité du système, là. Ce monsieur-là continue d'avoir des nouvelles de ses 3 enfants pendant qu'il est en prison. Puis, jusqu'à temps qu'il sorte de prison, puis jusqu'au procès de la déchéance, donc à peu près 2 ans, là, il y a 2 ans et demi, il a continué d'avoir des nouvelles de ses enfants. Ses enfants, le savaient-ils, le savaient pas? Non, mais quand même, là, ça fait être un peu étrange là, de dire que ce monsieur-là continue d'une certaine façon d'être dans la vie de ses enfants.
C'est parce qu'on fait une grande réforme de la protection de la jeunesse au Québec en disant que la priorité, c'est l'enfant. Puis qu'est-ce qui est dans l'intérêt de l'enfant et non pas du parent qui est en train de se réhabiliter ou du parent qui va mieux ou du parent qui s'est pris en charge? Puis la raison pour laquelle je vous posais cette question-là tantôt, c'est que moi, ça m'est arrivé dans quelques cas où on m'a expliqué, puis moi, je suis pas un expert, fait que j'entends ça, mais en même temps, que l'enfant qui a connu des bons moments avec le père agresseur, l'enfant qui, oui, a été victime, mais aussi est allé au cinéma, le père a joué un rôle, priver l'enfant d'une présence comme celle-là, c'est aussi nuire à l'enfant. J'ai entendu ça, là, d'intervenants. Perso, ça me jette à terre, là, mais...
Oui, je l'ai entendu, on l'a entendu, ma cliente l'a entendu, mais à la fin de la journée, c'est un deuil malheureusement pour l'ensemble de cette famille-là. Il y a le deuil du bon parent, parce que ça se peut, comme dans ce cas-ci, ce monsieur-là avait déjà été un bon père jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Donc, il y a un deuil, il y a un processus de deuil qui doit, puis c'est pas parce qu'on s'ennuie d'un bon parent que nécessairement, ça veut dire que c'est dans l'intérêt de l'enfant qu'on continue à avoir des contacts avec lui. Au contraire, la déchéance donne ce pouvoir-là à l'enfant. En coupant le lien, on vient dire que ce parent-là n'aura plus aucune forme de contrôle d'information sur l'enfant, puis c'est l'enfant qui va décider si un jour il veut reprendre contact avec le parent, il va le faire dans ses conditions à lui ou à elle.
Comme dirait l'autre, on l'a tous entendu, mais on est loin d'être convaincus. Merci beaucoup, Maître Brunet.
C'était un plaisir. Merci à vous.
Merci, Maître Marie-Laurence Brunet, qui a piloté le dossier, qui a représenté la mère qui sera avec toi cet après-midi.
Oui, elle va être avec nous là, à 17h. Puis juste souligner, Paul, avant de partir, il y a eu beaucoup d'histoires de juges dans l'actualité qui ont peut-être erré un peu là, dans la dernière année. Dans le cas du juge Moore, moi j'ai lu la décision. Écoute, il peut pas être moins dupe des arguments de ce père-là qui disait « Ça m'inquiète que mes enfants n'auront pas de figure paternelle. » Le juge y a dit que plutôt que d'agresser sexuellement ses enfants, il aurait dû être un vrai père.
Merci, on écoute ça cet après-midi, 17h. Alors, Bénédicte est dans la région de Portneuf ce matin parce qu'il y a une petite fille de 9 ans qui est décédée après l'effondrement d'un fort de neige. Et elle jouait avec une amie dehors. Il y a, évidemment, c'est un choc dans la communauté. Puis je pense que n'importe quel parent qui entend ça est bouleversé. Alors, Bénédicte, ça s'est passé à Saint-Ubalde, dans Portneuf.
Ouais, une histoire qui est tellement triste. Un peu après 14h30, la Sûreté du Québec est appelée parce qu'il y a une fillette qui est en arrêt cardio-respiratoire. C'est une fillette de 9 ans qui jouait avec sa demi-sœur de 7 ans dans la neige. Les deux jouaient dans un fort de neige et ce qu'on comprend, c'est que la structure se serait effondrée sur elle. Et selon les informations que j'ai pu avoir, les parents et d'autres enfants de la famille étaient aussi à l'extérieur. Tous jouaient derrière la résidence. Alors, les pompiers, les ambulanciers qui se sont rendus sur place, on a transporté la fillette d'urgence vers l'hôpital, mais malheureusement, elle a succombé à ses blessures et il y avait des manœuvres de réanimation qui avaient été entamées déjà lorsqu'elle avait été prise en charge. La plus jeune des deux enfants, elle, a réussi à s'en sortir avec des blessures. Ça se passe derrière une résidence sur la route 363. Je te dirais que les maisons sont assez éloignées les unes des autres. Et quand je suis arrivée sur place hier soir, il y avait plusieurs policiers de la Sûreté du Québec, l'identité judiciaire qui était là, les enquêteurs qui s'affairaient derrière la maison avec les lampes de poche. On veut comprendre et s'assurer de comprendre toutes les circonstances de ce qui s'est produit. Même si on sait clairement là, qu'il s'agit d'un accident, on veut refaire un peu le fil des événements pour pouvoir possiblement éviter que ça se reproduise. Parce que tu le disais, c'est carrément le cauchemar de tous les parents. Tous les parents ont déjà vu leur enfant jouer, faire un fort à l'extérieur. Alors, on comprend que c'est l'onde de choc. Ce matin, les policiers ne sont plus sur la scène et on le sent là, que la communauté de Saint-Ubalde est en choc. C'est une petite communauté de 1500 habitants environ. Hier, je regardais sur Facebook là, plusieurs témoignages, plusieurs qui connaissent soit les parents, soit les enfants, leurs enfants qui vont possiblement à la même école. Et on peut penser justement qu'il y aura des mesures qui vont être mises en place ce matin pour supporter les enfants, les proches, les professeurs. Déjà, le maire a laissé indiquer ça. On va parler aussi avec le CIUSSS pour voir quelles seront les mesures d'accompagnement pour les enfants qui clairement auront besoin peut-être d'explications et d'accompagnement ce matin.
Ça a été aussi, Bénédicte, un autre week-end violent dans le Grand Montréal.
On se le disait en fin de semaine dernière à quel point on trouvait qu'il recommençait à avoir des coups de feu. Là, beaucoup d'événements de coups de feu en fin de semaine depuis vendredi. Il y en avait eu déjà contre une résidence de Rivière-des-Prairies, des coups de feu. Et vendredi soir, il y a un homme de 28 ans qui a été blessé dans Pierrefonds, Roxborough. Des coups de feu également. Samedi, ça s'est passé en plein après-midi. Secteur résidentiel de l'Art des Ormeaux. Un impact de projectiles d'armes à feu sur une résidence, un jumelé, des douilles trouvées au sol. Il faut le dire, là, c'est un secteur où c'est des petites rue, plein de maisons unifamiliales. Ça se passe en plein après-midi. Dimanche matin, même chose. Quartier résidentiel de Ville-Mont-Royal. Résidence qui a été criblée de balles au cours de la nuit. Il y avait des gens à l'intérieur. Personne n'a été blessé. Ça se passe autour de 2h du matin, dimanche, sur l'avenue Dobie. Et là, il y a aussi eu un événement où il y a un jeune de 21 ans qui a été tué samedi matin à Repentigny dans une agression armée. Donc, on parle dans le Grand Montréal. On essaie de comprendre les circonstances de tout ça, mais tu comprendras que ça donne, disons, le ton. Quand je parlais à plusieurs policiers qui ont l'impression qu'on risque d'avoir un printemps assez mouvementé, un peu comme on a vu le printemps dernier, là. Alors, est-ce que c'est le début? Est-ce que ça reprend? Bien, ce sera assurément surveillé du côté de Montréal.
Et il y a aussi une piétonne qui a été gravement blessée à Saint-Simon, en Montérégie.
Oui, parce qu'il y a une voiture qui a été projetée sur elle. Ça s'est passé autour de 13h30. C'est un conducteur de 22 ans qui n'a pas fait son stop, en fait. Il était sur la route 116 et là, il est allé percuter une voiture qui était sur la route 211. La voiture qui a fait un tête-à-queue, mais qui est allée frapper une piétonne. C'était une septuagénaire qui circulait à pied, qui était en bordure de route. Et on parle d'une femme, donc, qui a été gravement blessée. On craignait pour sa vie au départ. Semble-t-il que son état s'est amélioré, mais là, on veut essayer de comprendre de ce côté-là aussi les circonstances exactes. Est-ce qu'il pourrait y avoir possiblement des accusations, étant donné que la personne n'a pas fait son stop? Ce sera tous, donc, des éléments à surveiller aujourd'hui.
Merci, Bénédicte.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand.
Maintenant, la presse, ce matin, a obtenu les grandes lignes de ce projet de loi qui va créer l'Agence Santé Québec qui va être présentée. On ne sait pas si c'est mercredi ou jeudi, mais quand vous regardez les faits saillants, d'abord, il n'y aura plus qu'un employeur, plutôt que 34 employeurs différents. On a l'intention aussi de faire en sorte que l'ancienneté s'applique donc à l'ensemble du Québec. Ça veut dire que un employé qui décide de quitter la Montérégie pour toutes sortes de raisons après 10 ans d'ancienneté pour aller travailler ailleurs, ben l'ancienneté va suivre. Je précise que la loi va s'appliquer après la négociation actuelle. L'autre élément important, ça veut dire aussi qu'on va réduire et ramener à 4 le nombre de tables de négociation et que l'ancienneté ne sera pas le critère absolu pour l'octroi de postes, en tout cas pas pour tous les postes. Et puis finalement, les médecins spécialistes qui devront travailler plus, notamment être présents à l'urgence, présence accrue à l'hôpital et présence aussi à l'extérieur. Alors, officiellement, c'est donc mercredi ou jeudi, mais on peut déjà aller voir les réactions un peu. Caroline Senneville est la présidente de la CSN. Elle est avec nous ce matin. Madame Senneville, bonjour.
Bonjour.
D'abord, êtes-vous étonnée ou si vous étiez un peu au parfum là, de ce que contenait le projet de loi?
On a rencontré le ministre de la Santé vendredi matin. Une rencontre assez courte là, d'une vingtaine de minutes. Où il nous a dressé les grandes lignes, mais vraiment pas autant de détails qu'on connaît là, ce matin, parce qu'il doit bien sûr respecter les prérogatives de l'Assemblée nationale. J'imagine que le journaliste n'y a pas les mêmes règles à suivre. Beaucoup plus de détails ce matin, je vous dirais, mais en même temps, beaucoup de détails qui nous manquent. On a vraiment hâte que le vrai projet de loi tombe et qu'on puisse l'étudier dans tous ses détails.
OK, mais parlons quand même des faits saillants, là, parce qu'ils seront de toute évidence dans le projet de loi. Que l'ancienneté voyage, se déplace avec l'employé. Êtes-vous d'accord avec ça?
On a des questions, des préoccupations, je vous dirais. Déjà, l'ancienneté est assez large, hein, parce qu'il y a 34 CIUSSS. Alors, si vous travaillez sur la Côte-Nord, si vous avez votre ancienneté à court sur 1400 kilomètres de côte, là. Mais avec une ancienneté nationale, deux questions, deux préoccupations. Est-ce qu'on risque de vider les régions? Ça, c'est une question qu'on se pose. Puis l'autre question aussi, c'est sur le sentiment d'appartenance des gens qui travaillent dans le réseau. C'est très difficile de travailler dans le réseau. C'est pas là qu'on devient riche. Et souvent, les gens nous disent que leur motivation, c'est de donner des services à la population et le travail en équipe. Et c'est un peu ça aussi qu'on critique avec l'utilisation des agences. Et tu sais jamais avec qui tu vas travailler, tu sais jamais d'où cette personne-là vient, si elle a des compétences dans le département spécifique où tu travailles, elle connaît pas les airs. Est-ce qui augmente sa tâche?
Alors, mais en même temps,
avec une entité nationale, c'est les préoccupations qu'on a.
OK, mais en même temps, il n'y a pas l'effet pervers. Si je travaille, je sais pas, là, puis je donne un exemple, je travaille à Montréal pour toutes sortes de raisons qui me sont personnelles. Je vais aller travailler en Montérégie parce que j'y habite, parce qu'il y a des travaux au tunnel La Fontaine. Ben, si je perds mon ancienneté, m'a peut-être quitté le réseau de la santé, tant qu'à faire. Ce que je veux dire, c'est que ça peut être un des facteurs qui fait que des gens quittent.
Oui, mais en même temps, je reprends l'exemple de votre tunnel. Si tout le monde s'en va travailler en Montérégie, puis le CHUM a des difficultés de recrutement, on n'est pas plus avancé. Donc,
non.
Puis c'est pour ça que je dis, on a des questions. Il faudra voir comment ça va s'appliquer. Après ça, on regardera ça à son mérite. Non?
OK. L'autre chose, le fait que s'il y a maintenant où il y aura qu'un seul employeur et quatre tables de négo, là. C'est un impact, là, pour les cotisations syndicales, pour le membership, là. Je comprends les grands principes, mais il y a une réalité économique pour les syndicats aussi, là.
Non, on n'est pas payé au nombre de tables
de membres que vous avez.
Oui, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ils veulent. Quand on dit 136 tables, c'est parce qu'il y a des tables locales. Table locale qui nous avait été imposée en 2005. C'était un décret du gouvernement qui avait obligé les syndicats à négocier un certain nombre de matières. Par exemple, les vestiaires, l'accès aux vestiaires, les modalités de prise de vacances, pas ton quantum, là, les modalités. Ça, c'était tous des enjeux que le gouvernement avait dit. On négocie plus nationalement, on envoie ça aux tables, on envoie ça dans les établissements, pardon. Et c'était un décret, on n'avait rien eu à dire là-dessus. Alors là, ben, on va, je voudrais commencer à passer cette négociation, à travers cette négociation-ci. Puis après ça, on verra aussi comme, quelle sorte de table, comment qu'ils voient ça. On verra parce qu'on peut avoir une table avec plus qu'un syndicat. Là, on négocie en front commun.
Ouais, mais je prends l'exemple de la CSN. Vous avez perdu des plumes avec la FIC il y a quelques années.
Oui.
Beaucoup.
Mais c'est parce qu'ils fusionnaient les accréditations syndicales, pas les tables de négociation.
Non, mais là, il va y avoir un employeur. Puis ce que je veux vous dire, il risque d'y avoir du maraudage un peu plus corsé. En quelque part, il y a un enjeu aussi monétaire pour les syndicats.
Bien, il faudra voir ce qu'il y a dans le projet de loi. Je ne sais pas s'il veut fusionner des syndicats ou pas. Comme je vous dis, en ce moment, on représente 420 000 personnes au Front commun. Puis c'est avec quatre syndicats qu'on négocie les salaires. Alors, chaque syndicat a ses membres. On négocie à une seule table. Donc, le nombre de tables et le nombre de syndicats, c'est pas une adéquation automatique.
Okay.
Mais effectivement, s'il y avait ça dans le projet de loi, c'est sûr que on va réagir.
Et dernier élément, là, le fait que pas tous les. En fait, que la règle de l'ancienneté ne s'applique pas pour toutes les promotions ou tous les postes. D'après ce qu'on lit ce matin, 10 à 15 d'emplois qui peut-être demandent un certain nombre de compétences, ben qu'on ne tienne pas compte de l'ancienneté quand on donne le poste. Êtes-vous d'accord avec ça?
Non. Mais je pense qu'il faut tenir compte des compétences et de l'ancienneté. Alors, on affiche le poste avec tout ce qui est demandé, toutes les exigences du poste. Alors là, tu remplis les exigences ou tu ne les remplis pas. Et si tu les remplis, ben oui, l'ancienneté, c'est une bonne règle. Puis je vous dirais souvent, même dans les milieux non syndiqués, c'est la façon dont on va distribuer les tâches ou les postes ou les quarts de travail une fois que les exigences du poste sont remplies.
OK, mais vous savez ce que c'est.
C'est pas nous qui faisons les affaires.
Non, mais.
C'est pas nous qui faisons les affaires.
Non, mais je comprends. Mais en même temps, il y a des fois, le fardeau de la preuve, c'est correct, là, est à l'employeur. Mais je lisais encore ce matin des exemples où tu disais, hey, pourquoi j'ai cet employé-là? Moi, je pense, elle a peut-être plus d'ancienneté, mais c'est pas elle qui est la plus compétente. L'autre est meilleure. Elle n'a pas autant d'ancienneté, mais elle est meilleure.
On peut
pas dire ça.
Oui, ben, faut que ça soit prouvé. Y a-t-il un examen d'entrée? Si vous voulez prouver qu'il est meilleur, faites des tests, faites un examen, faites des... Mais on peut pas... Si c'est juste un patron qui décide seul dans son bureau, c'est qui est meilleur, je m'excuse, mais on tombe dans l'arbitraire.
OK. Dites-moi, comment ça va les négos avec Maître Lebel?
Ben, le rythme s'est un peu accéléré. Il y a des rencontres cette semaine, alors on va continuer. On garde le cap.
Parfait. Merci, Mme Senneville.
Merci.
Au revoir. Caroline Senneville est la présidente de la CSN. Alors, on verra plus tard. Puis, je rappelle que dans, en tout cas, ce qu'on croit être le projet de loi, il y a un effort supplémentaire qui est demandé aux médecins spécialistes, notamment une présence accrue à l'hôpital, à l'urgence, et dans certains coins qui sont desservis, où il y a, disons, une forme d'inéquité entre les citoyens du Québec, selon l'endroit où ils habitent.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
À compter de demain, certains articles de plastique à usage unique seront interdits à Montréal. C'est pas une surprise, ça avait été annoncé. On avait donné le temps aux gens de s'ajuster, de s'adapter. Puis il y a même une période, appelons ça encore, de tolérance, si on veut. Mais on va essayer de comprendre exactement ce que ça veut dire. Beaucoup et même des restaurateurs puis des propriétaires de certains commerces qui... ça, j'ai-tu le droit? Ça, j'ai pas le droit. Marie-Andrée Mauger est responsable de la transition écologique. Elle s'occupe de l'environnement à la Ville de Montréal. Madame Mauger, bonjour.
Bonjour.
Je veux juste comprendre le plus simplement possible, là, quelles habitudes doivent changer. Par exemple, quelqu'un qui va prendre son café du matin, qu'est-ce que ça change?
Café du matin, c'est un bon exemple d'une situation où, autant que possible, on utilise son contenant lavable, réutilisable. Mais les matins où on les a pas et tout ça, il y a encore, bien sûr, la possibilité d'avoir des contenants à usage unique. Seulement, ce que le règlement prévoit, c'est que c'est des contenants. Le contenant, il sera en fibre de papier, comme c'est déjà beaucoup le cas pour les cafés pour emporter. Et les couvercles, si on a besoin d'un couvercle, bien à ce moment-là, il doit être absolument recyclable à partir d'un plastique numéroté de 1 à 5. Donc, on élimine les plastiques numérotés 6 et 7 parce qu'ils ne sont pas, dans la pratique, recyclés. Donc, ils aboutissent sans aucun doute à l'enfouissement s'ils sont pas perdus dans l'environnement avant ça.
OK. Ça veut dire que les bâtonnets de plastique, par exemple, pour le café, ou les pailles pour les boissons gazeuses en plastique, ça aussi, ça disparaît.
Aussi, parce que ce sont de petits objets en plastique. Donc, peu importe qu'ils soient un plastique numéro 1 et 6, ils sont systématiquement dans les rejets s'ils se rendent au centre de tri. Donc, ceux-là, ils sont complètement bannis. Donc, on ne trouvera plus des pailles en plastique, sauf pour des raisons médicales. Et puis, les bâtonnets de café, donc en plastique, n'existeront plus. Mais comme vous le disiez, demain, ça se peut qu'il en reste encore.
Oui,
parce
oui.
qu'on permet aux commerçants d'écouler le reste de leur stock. Mais sachant que le règlement a été annoncé il y a plus d'un an et demi, on dit que c'est une affaire de quelques jours, là, quelques semaines, mais on veut pas que le règlement génère du gaspillage. Donc, on permet l'écoulement des stocks.
Question très simple. On voit ça souvent, là, quelqu'un qui entre dans un restaurant là, va chercher une frite, puis on lui met une fourchette en plastique. Ça, c'est terminé aussi.
C'est terminé aussi. Donc, ce qu'on dit, c'est que les ustensiles en plastique, si c'est une commande pour emporter ou une livraison, il faut les demander. Parce que, justement, souvent, on va chercher une commande, on se fait livrer, on est à la maison, on n'en a pas besoin d'ustensiles jetables. Et donc, on veut vraiment réduire à la source. Donc, si le client ne demande pas les ustensiles en plastique, eh bien, le commerçant ne doit pas en inclure dans la commande. Alors, on se dit que, idéalement, là où on va consommer la nourriture, on aura ces ustensiles lavables et réutilisables.
Je vous donne un exemple. C'est un auditeur qui m'a soumis ça, puis je trouve ça intéressant. Hier, là, je comprends que c'est demain, là, mais disons que le règlement s'applique. Il est allé chercher un repas dans une épicerie, un repas pour emporter. Et c'est un tartare, OK? Le poisson était dans un contenant de plastique. Le même contenant de plastique était placé dans un autre contenant de plastique. Puis il y avait deux autres contenants de plastique pour ce qui est des accompagnements pour le tartare. Ça faisait beaucoup de plastique. Est-ce que ça, c'est encore permis ou pas?
La façon dont on emballe les aliments, ça, c'est vraiment régi par des règles du ministère de l'Alimentation, Pêcherie, Agriculture. C'est des règles d'hygiène et salubrité. Fait que c'est pas, la ville n'intervient pas pour dire mettez la sauce avec le poisson cru, exemple, parce que là, il y a des risques de contamination.
Non, mais ça pourrait être un contenant en carton un peu plus. Ça faisait en tout cas beaucoup de plastique dans sa description, là.
Il y a beaucoup de plastique. Il y a effectivement un enjeu de sur-emballage. Ça, c'est vraiment aussi un gros enjeu. Ça, c'est vraiment, c'est un effort collectif, la réduction à la source, c'est de se demander d'emballer au minimum et de choisir aussi des emballages qui vont être compostables réellement, donc des fibres de papier ou de bois. Et puis, dans les plastiques, on parle vraiment des plastiques numéro 1 à 5. Et quand c'est des objets très petits en plastique, ils passent dans les mailles des trieuses, dans les centres de tri. Donc, même si on veut se donner bonne conscience, tu diras de toute façon, c'est recyclable, c'est pas grave. À la fin, malheureusement, souvent, ces articles-là ne sont pas recyclés. On dit que plus de 80% des plastiques mis en marché aboutissent soit à l'enfouissement, soit sont perdus dans l'environnement, contaminent nos cours d'eau et tout. Donc, c'est vraiment un enjeu majeur, les déchets plastiques. Ça fait d'ailleurs partie de l'accord Kunming-Montréal, donc de la COP15 biodiversité qui s'est tenue en décembre dernier, dans l'engagement de Montréal aussi lancé par la mairesse Valérie Plante. Donc, c'est vraiment important que tous on s'attaque à l'enjeu des déchets plastiques. Donc effectivement, de plus en plus, on encourage les commerçants à utiliser, à accepter les contenants réutilisables des clients. Il y a des normes de salubrité, il y a un guide qui a été préparé et qui a été validé par la santé publique. Donc il y a beaucoup de solutions, puis il y a beaucoup d'accompagnement pour les commerçants. En ce sens-là, la ligne Affaires Montréal, par téléphone, par courriel, tous les commerçants qui ont des questions sont invités à communiquer avec la ville.
OK. Un dernier point, là, pour ce qui est des fameuses assiettes, par exemple, ou encore les barquettes où on a de la viande ou bon, en épicerie et tout ça, est-ce que c'est autorisé ou pas?
Ben, les barquettes, idéalement, c'est des plastiques numérotés de 1 à 5. On élimine les styromousses. Mais il y a un an et demi, un peu plus, quand on a préparé le règlement, on avait consulté donc les parties prenantes dans l'industrie qui nous avaient demandé de permettre le styromousse pour la viande et le poisson parce que il n'y avait pas de produits alternatifs à l'époque. C'est moins vrai aujourd'hui, mais le règlement tel qu'on l'a adopté en septembre 2021 prévoit que pour la viande et le poisson, les commerçants peuvent toujours utiliser les petites soucoupes là, qui sont en styromousse.
OK, parfait. Merci, bonne journée.
Je vous remercie.
Et au revoir. Marie-André Mauger, qui est la responsable de la transition écologique à la Ville de Montréal.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
Puisqu'on parle de restaurants, le phénomène du no-show, là, c'est-à-dire des gens qui réservent, qui ne se présentent pas, qui n'appellent pas pour dire qu'ils ne seront pas présents, ça a l'air à se poursuivre. Puis tu sais, il y a des cas classiques. Il y a un restaurateur qui m'écrivait l'autre jour, là, il dit, tu vois souvent deux choses. D'abord, les gens qui appellent pas, là, puis qui ont réservé. Ou encore des groupes. Ils arrivent plus nombreux, moins nombreux, respectent pas l'heure de la réservation. Et là, t'es obligé de gérer ça, là, comme restaurateur. Alors, il y a un sondage qui a été fait pour l'Association de restauration du Québec qui montre que les pertes sont importantes puis que c'est un phénomène. Là, 65% des restaurateurs qui disent que le nombre de tables laissées vides est en constante augmentation. Martin Vézina est le vice-président aux affaires publiques de l'Association de restauration du Québec. Monsieur Vézina, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
C'est vrai que c'est en augmentation. On savait que ça existait, là, mais je pensais pas que, comme on dit, la tendance était forte à ce point-là.
Bien, on était à la même place, c'est-à-dire qu'on voyait cette tendance-là. On a décidé de le chiffrer là, dans un sondage qu'on a fait auprès de nos membres. Quand on a sondé autour de 415 répondants, ben on arrive au chiffre que vous avez mentionné, là, soit le deux tiers nous disent que c'est une tendance en augmentation. Même un peu plus loin, 33% nous ont dit que ça arrive fréquemment. Là. Donc, c'est plus une ou deux fois là, de temps en temps. Là, on est dans une situation qui est fréquente dans les établissements. Là.
Mais quand on dit que c'est fréquent, là, est-ce qu'on parle de plusieurs clients le même soir qui se pointent pas? C'est fréquent parce qu'il y en a un par soir. Ce que je veux dire par là, là, est-ce qu'on est capable de, j'allais dire, mieux encore quantifier le problème ou chiffrer le problème?
Ben, je vous dirais, on peut le chiffrer, là. Je vous dirais, la majorité nous ont dit là que ça pouvait arriver entre 10 et 30 par semaine. Là, c'est toujours difficile à dire parce que c'est-tu combien de tables, c'est-tu des groupes, c'est-tu des petits groupes, mais ça reste que quand c'est à 30 occasions par semaine, ça fait quand même un volume important là, qui affecte les revenus des restaurateurs.
Et comment les restaurateurs gèrent ça actuellement? Qu'est-ce qu'ils font?
Alors, ce qu'ils font actuellement, on est beaucoup à utiliser d'autres techniques pour s'assurer que les gens viennent. Pas toujours avec succès, mais la moitié des répondants utilisent maintenant d'appeler les consommateurs pour leur rappeler leur réservation puis leur dire « Est-ce que vous allez vous présenter aujourd'hui? » Donc, il y a des outils qu'ils utilisent, le téléphone, de donner une certaine période de grâce, de 15 minutes avant que les gens arrivent. Mais malgré cela, là, on voit que les gens, ben, à la fin, ne se présentent pas nécessairement à la réservation.
Mais est-ce que ça peut vouloir dire, je sais pas moi, avoir une liste noire de clients là, que par exemple, moi j'appelle, j'y vais pas, ben la prochaine fois que j'appelle, ça se peut qu'ils prennent pas ma réservation là.
Ça se pourrait. Je vous dirais, il y a certains établissements qui ont commencé à utiliser cette formule-là, c'est-à-dire de faire une liste noire des clients qui ne se présentent pas à plusieurs reprises. Nous, à l'association, ce qu'on demande au gouvernement, c'est de nous permettre peut-être d'arriver avec un ticket modérateur ou une pénalité modeste pour amener à changer le comportement du consommateur pour que dans quelques années, on ne parle plus que c'est un phénomène en augmentation, que ce phénomène-là n'existe tout simplement plus. Là, actuellement, c'est que le consommateur n'a aucun désagrément s'il continue dans son geste. C'est-à-dire, il ne se présente pas, ben c'est pas grave, il y a pas de coût, il n'y a pas rien. Des fois, on voit au niveau des consommateurs qu'ils réservent dans plusieurs établissements le vendredi soir. Et ils appellent pas pour annuler dans les trois autres qui ont pas été. Donc, on voit ces phénomènes-là avec peut-être une mesure pénalisante, mais ça permettrait de remettre un peu de l'ordre là, dans la situation.
Mais entre vous et moi, là, je comprends que selon la loi de la protection du consommateur, un restaurateur peut pas imposer une amende à un client qui se présente pas. Mais en pratique, actuellement, il y a des restaurateurs qui vont demander que la réservation soit confirmée par une carte de crédit. J'ai vu des réservations, par exemple, de forfaits où c'était pas annulable. Il y a déjà certains moyens, là, je sais pas si tout ça est légal, mais il y a certains moyens qui sont mis en place.
Ben, je vous dirais la confirmation par carte de crédit, tant qu'il n'y a pas aucun montant pris dessus, est tout à fait légal. Donc ça, c'est un des outils, mais encore là, à la fin, comme le restaurateur, la restauratrice ne peut pas percevoir de montant dessus. Oui, ça valide la sérieuxité de la demande, mais si quelqu'un se présente pas, il n'y a pas de conséquences pour le client. Peut-être à un moment donné, quand les clients vont découvrir ça, ben, ils vont arriver à
comprendre. Mais par exemple,
est-ce que... carte de crédit, puis c'est pas grave.
Ouais, mais est-ce qu'un restaurateur, mettons pour un groupe, je sais pas, moi, de 10, est-ce qu'il peut demander un dépôt? Et que si je me présente pas, le dépôt est annulé? En fait, il est gardé?
Dans le cas où il y aurait un contrat écrit, que c'était signé avec un dépôt, dans ce cas-là, oui. On pourrait garder le dépôt. Cependant, on le voit pas nécessairement pour un souper pour deux un vendredi soir.
Non, mais un groupe...
C'est
vraiment
dans une logique de groupe, mais oui, pour les logiques de groupe, avec un contrat écrit et signé, on peut demander un dépôt et le conserver là, si on respecte pas les paramètres du contrat.
Parfait. Merci beaucoup, M. Vézina. Bonne journée.
Merci,
M. Arcand. Martin Vézina est vice-président aux affaires publiques. Je peux vous dire que dans d'autres villes, par contre, ils se gênent pas pour... prendre un montant d'avance qui vous sera crédité lors de votre repas sur la facture finale. Mais c'est vrai que c'est une réalité de gens qui se pointent pas, là, puis ça vient comme disait un restaurateur. Tu sais, t'attends. T'as des gens qui attendent à l'extérieur, là, puis que tu dis, ben, j'ai pas de table, j'ai pas de place, puis il est 7 heures, puis la personne n'est pas arrivée, puis il est 7 heures et quart. Puis toi, t'aurais pu servir deux clients, puis ça manque totalement, disons, de savoir-vivre.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Très bien, on va parler des manifestations en France qui doivent reprendre officiellement demain. Là, l'intersyndicale qui a appelé à une 10e journée de grève, de manifestation contre la réforme des retraites qui a été adoptée la semaine dernière, donc qui amène l'âge de 62 à 64. Vous avez vu, évidemment, depuis les derniers jours, les moyens de pression, les manifs, les sacs d'ordures qui s'accumulent. Et ça a été très violent dans plusieurs cas, les affrontements des CRS et les manifestants, des feux qui ont été allumés. Je vais parler de tout ça avec Katia Blanchard, qui vit en France. Elle est acadienne d'origine, mais elle est là-bas depuis 20 ans. Katia Blanchard, bonjour.
Bonjour.
Alors, peut-être nous dire un peu comment se sont déroulés les derniers jours. La perception qu'on a, là, c'est que le mouvement ne semble pas s'essouffler.
Non, pas du tout. En fait, il y a eu une recrudescence des participations et des mobilisations, notamment à l'occasion de la 9e journée de grève la semaine dernière. Donc, non, le mouvement n'est pas parti pour faiblir.
Et comment le gouvernement réagit devant ça?
Ben écoutez, c'est une situation qui est assez complexe parce que évidemment, par exemple, le président Macron a pris la parole la semaine dernière pour tenter de convaincre, de rassurer, d'expliquer, et en fait, le projet de réforme et puis comment, pourquoi ça devait se faire, pourquoi on devait aller jusqu'au bout et pourquoi ça sera implanté d'ici la fin de l'année. Donc, disons que du côté de la présidence de la République, il y a quand même un ton assez décidé et en même temps, on ne peut pas forcément ignorer tout ce qui se passe dans la rue. Donc, on fait une distinction quand même assez claire entre la contestation, qui est quand même la voix du peuple et à laquelle le peuple a droit, évidemment. Mais il y a aussi tous ces casseurs qui profitent de l'occasion pour s'en donner à cœur joie. Et franchement, là, jeudi dernier, à Paris, on comptait à peu près 1000 personnes, des black blocs. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec le terme, mais oui. C'est en fait des personnes qui, voilà, qui sont habillées en noir, qui sont, j'ai envie de dire, des casseurs professionnels, dans le sens où ils se pointent dans des moments comme cela pour casser. Sans forcément opinion politique, sans forcément de but autre que de faire le bordel, pardon pour l'expression. Donc on essaie de faire quand même cette distinction. Les syndicats aussi s'inquiètent de cette montée en violence, puisque évidemment que l'opinion publique est importante de part et d'autre, c'est-à-dire pour le gouvernement et pour les syndicalistes. Donc, il y a des jeux de pouvoir et un équilibre à essayer de trouver. Mais franchement, c'est assez désolant parce que moi, j'habite dans le 11e arrondissement, donc mon quartier a beaucoup souffert puisque la manifestation se passait à un pâté de maison de chez moi, donc c'est vraiment juste à côté. Donc non seulement j'ai entendu le cortège pendant à peu près 4 heures, mais en plus ça a duré jusqu'à assez tard dans la nuit puisque justement les casseurs se baladaient librement en tout cas. Dans le quartier, hein, je pense qu'ils étaient aussi poursuivis ponctuellement, mais en gros ils renversaient les poubelles. Ils criaient, ils envoyaient des feux d'artifice. Donc, en retour, les riverains sont énervés. Donc, leurs cris des bêtises aussi. Donc, c'était assez mouvementé. Donc, il y a la manif qui se passe sur une certaine tranche horaire, sur un certain itinéraire. Mais il y a toujours des débordements autour. Donc, et malheureusement, le quartier en souffre beaucoup.
On a beaucoup parlé de la grève des éboueurs. Ça aussi, ça continue, mais il y a des perturbations dans le transport public, train, métro et tout ça. Les horaires sont affectés, là.
Oui. Ça touche quand même une grande partie des services publics. Donc, on parle effectivement des éboueurs qui continuent de reconduire leur grève. Là, il y a certains travailleurs du secteur privé et de propreté, donc des prestataires qui jusqu'à maintenant faisaient le travail sans trop poser de questions, qui leur risquent, qui menacent aussi de se mettre en grève. Évidemment que ça touche les écoles. Moi, l'école de mon fils était fermée la semaine dernière. Demain, ce sera ouvert, mais bon, on sait jamais trop à quelle sauce on va être mangé. Pareil pour les transports. Donc, à Paris, on repose quand même beaucoup sur les transports en commun, sur le métro, sur les autobus, sur les trams. On annonce un train sur deux, un train sur quatre, un train en fonction des lignes. Donc, ça a vraiment une incidence sur les déplacements des gens. Et on est un peu pris en otage parce qu'enfin, c'est quand même, heureusement, on a du télétravail maintenant, mais c'est pas tous les employeurs qui le permettent. Et au final, si on doit rester à la maison pour s'occuper de nos enfants, c'est quand même, ça peut potentiellement être très pénalisant pour certaines personnes. Donc, on se sent un peu pris en otage parce que les trains aussi ne font plus. Donc, quand on doit se déplacer professionnellement, c'est pareil. Les aéroports, là, on parle de potentielle pénurie de kérosène puisqu'il y a des grèves dans les raffineries à proximité de l'Île-de-France. Donc, difficulté d'approvisionner les avions en kérosène. Donc, non, ça touche quand même énormément de secteurs.
Merci beaucoup, Katia Blanchard, qui vit en France depuis 20 ans et vous le voyez un peu ce que c'est que le quotidien. Je disais, parce qu'on a vu des images aussi derrière les manifestations et les incendies d'ordures, des gens qui étaient quand même sur les terrasses et qui profitaient d'un bon verre de vin rouge et qui profitaient d'un repas avec des amis malgré les manifestations. C'était assez surréaliste. Mon ami Fabrice de Pierrebourg, qui est évidemment friand de tout ce qui se passe dans son pays d'origine, m'a envoyé un petit lien hier, appelons ça un face-à-face entre un CRS et un manifestant. Et vous allez voir que le ton est assez spécial.
T'inquiète, ta petite tête, on l'a déjà en photo. T'as juste à te repointer dans la rue prochaine manif. Mais je peux te dire que nous, les têtes, on est vachement figés, on les retient. Mais t'inquiète pas que la prochaine fois qu'on vient, tu monteras pas dans le car pour aller au commissariat. Tu vas monter dans un autre truc qu'on appelle ambulance pour aller à l'hôpital. Mais...
C'est quand tu te dis, la prochaine fois qu'on te voit en face, là, tu vas finir sur, à l'hôpital, à l'urgence. Ça crée beaucoup de réactions. Mais tu sais... On a vu des manifs à Montréal, là. C'est sûr que ça devient personnel à un moment donné parce que c'est régulier comme ça. Puis Mme Blanchard nous dit, est-ce que vous connaissez les Black Blocs? Mettons que oui. On les a vus pas mal lors du fameux printemps érable.
C'est 23.